Je vais vous écrire le titre de quelques ouvrages que j'ai publiés moi, parce qu'on m'a demandé cela la dernière fois. Hein. Bon. La critique de la raison pure. Non, ça c'est pas. Pardon. Voilà. Et aussi, je vais vous donner le courrier électronique de Michel Zinc. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Point. Ici, point 5, @ faire. Voilà. Ah, voilà pourquoi. Ceci est notre dernier cours. Donc, ceux d'entre vous qui veulent exprimer des opinions sur ce cours, comme on le fait automatiquement aux États-Unis, ceux qui veulent exprimer des opinions sont priés de s'adresser à mon chef, Michel Zinc. Donc, envoyez-lui un email pas trop long, en lui disant c'était nul, ennuyeux, emmerdant, etc. On regrette d'avoir... ou alors c'est formidable. Dites ce que vous voulez pour que Michel puisse avoir une appréciation de mes humbles activités ici. Voilà, l'art de l'éloignement est un essai sur l'imagination classique. La pensée, j'aurais dû dire les pensées du roman, parce qu'il y en a plusieurs, mais enfin, la pensée au sens de la philosophie du roman, c'est une sorte d'histoire philosophique du roman du début à la fin. Ils sont faciles à lire, c'est pas du tout sorcier. Et la sixième branche, c'est un roman qui commence comme une sorte de parodie de roman picaresque, mais ça devient sentimental à la fin. Ça se lit, disons, il n'y a absolument pas de jeu moderniste, il n'y a rien de mystérieux là, et c'est au fond sur le pardon, sur, à la fin, je ne vous dis pas si on découvre le criminel, ni si les deux s'épousent, non, parce que d'ailleurs ils s'épousent très tôt, hein, dans le roman, bon. Alors, j'espère que vous avez aimé, les deux œuvres qui étaient vos devoirs. Tout le monde a fait ses devoirs? Oui, voilà. Ok. Voilà. à Chicago, j'ai appris, disons, j'étais encore sur la côte est à Princeton, j'ai appris d'une collègue une manière excellente de m'assurer que les étudiants, bon, c'était pas comme ici, bien entendu, que les étudiants lisent les livres qu'ils devaient lire. On leur donne à peu près un livre par semaine, et ils m'envoyaient, ils étaient censés m'envoyer un courrier électronique portant sur une question importante dans le livre. Donc, je me rendais bien compte. Je leur disais d'ailleurs, je vais bien me rendre compte si vous improvisez, si vous avez feuilleté un petit peu le livre pour inventer une question, ou si c'est vraiment une question qui montre de la réflexion. Donc, j'étais à la fois terrorisé et intéressé, mais c'est comme cela que dans un groupe de 15 personnes, on peut s'assurer que on a lu de quoi il s'agit. Donc, j'espère que vous avez regardé de près La Bête dans la jungle et Les Braises de Marail. Sinon, peut-être que le cours d'aujourd'hui convaincra ceux d'entre vous qui avaient encore quelques réticences à regarder, à lire ces deux beaux livres, une très très belle nouvelle et un roman bref. Alors, la thématique de ce cours était la non-identité entre le jeu et sa vie. Je ne suis pas ma vie, je ne suis pas ma vie, et c'est pour cela qu'il est possible de la raconter, parce que l'identité n'est pas source d'aventure. Si A est identique à B, il n'y a rien qui se passe. Et nous avons vu que la faille entre le jeu, entre jeu et ma vie, apparaît en littérature, en tout cas, apparaît de la manière la plus saisissante lorsque le malheur frappe. Donc ce cours était un peu, disons, un peu mélancolique, parce que nous avons parlé surtout de malheur, mais on peut aussi très bien réfléchir à la non-identité, au fait que je ne suis pas ma vie lorsque je suis d'un coup heureux. Je suis heureux, mais quand même je ne suis pas tout à fait soit digne de ce bonheur, soit ce bonheur n'est pas tout à fait à moi. Enfin, il y a toujours cette possibilité de saisir cette petite faille dans le bonheur. Mais nous avons parlé du malheur et de l'éruption brutale du destin qui, au début du cours, vous vous souvenez, il venait d'ailleurs. Il était attribué à l'intervention des dieux, comme dans l'Iliade, où il venait d'ailleurs parce qu'il était causé par des humains, par des êtres humains qui, au nom de la toute-puissance de l'autonomie humaine, basculent, et c'est trop facile, dans le démoniaque. On a parlé de Chalamov surtout, mais les écrits sur la Shoah, d'autres écrits sur les camps et sur les massacres communistes font partie de ce type de réflexion sur l'irruption du destin. Nous avons ensuite vu que la littérature réfléchit sur le malheur qui est causé en dernière instance par les hommes eux-mêmes. Et soit que ceux-ci transgressent les grands interdits qui protègent les activités les plus élémentaires, le fait de manger et de procréer. Et il y a des interdictions qui entourent le fait de... Nous n'avons pas le droit de manger des êtres humains. Ou alors nous n'avons pas le droit, dans les sociétés les plus archaïques, à l'inceste. Et les hommes qui transgressent ces grands interdits sont frappés par le malheur dans la tragédie grecque. Aussi, il y a dans la même tragédie comme une sorte loi qui prescrit non seulement la piété, parce que la piété bien entendu, mais non seulement la piété, mais une sorte de soumission aveugle au dieu et aussi à la cité. Il y a des conflits là. Ou alors, nous avons vu que le malheur est assimilé plus tard, à un moment où la réflexion, si j'ose dire, s'approfondit, il est assimilé à l'adversité généralisée du monde. C'est une adversité que nous avons vue dans les romans grecs, dans les romans picaresques, et cette adversité du monde effleure les personnages sans les détruire. Et les personnages résistent grâce à ce que nous avons vu était une force vraiment stoïcienne. Ils ont comme une sorte de citadelle intérieure les héros de romans romanesques, ou alors ils font preuve d'une adaptabilité qui est parfaitement amorale. Et c'est le cas des personnages picaresques. Pour sortir de ce conflit entre le jeu et la vie, la littérature nous invite parfois à tourner le dos au monde. Ne l'écoutez pas. C'est la vision du monde comme songe chez Calderon, chez Gorky. C'est la méditation sur la vanité du monde, sur la mort, sur la sortie du monde chez Ionesco, comme on l'a vu ici. Ou enfin, et c'est peut-être là la plus grande richesse, il y a une infinité de choses qu'on pourrait dire là-dessus, et la littérature médite sur les rapports finement différenciés de l'homme avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. Il ne s'agit plus de cette adversité généralisée un peu simpliste, mais de rapports finement différenciés. Et là, vous vous souvenez, on a vu très tôt que dans le roman médiéval, le malheur est causé par la faiblesse individuelle, par du héros, par la distraction, par l'oubli, par cette chevalerie sans courtoisie. Au fond, on peut se dire qu'il y a comme un lien qui va directement de ce point de vue de quelqu'un comme Chrétien de Troyes, et qui un lien qui saute par-dessus les romans héroïques de la Renaissance et du XVIIe siècle pour établir une alliance directe avec ce genre qui est la nouvelle et le roman d'analyse plus tardif. Ou alors, il y a la perspective de la détermination réciproque de l'homme et de son milieu social. Et là, nous avons lu un peu ensemble les illusions perdues de Balzac. On a parlé du réalisme social français qui est d'ordinaire un peu pessimiste. On a mentionné sans analyser le roman anglais de formation qui insiste sur le travail sur soi et sur la maturité individuelle. Et ces rapports finement différenciés dont je parlais ici peuvent aussi avoir lieu tout simplement dans le royaume, parce que je ne veux pas dire domaine, je veux dire royaume, des rapports personnels, comme dans la prose allemande du XIXe siècle, comme dans ce petit chef-d'œuvre dont nous avons parlé il y a deux semaines, le célibataire de l'homme sans postérité de Stifter. Hein. Et il y a évidemment un retrait, mais il y a aussi un retrait beaucoup plus dangereux chez les esthètes, lorsque le personnage, dégoûté par le monde, se retire dans l'art. C'est une solution tout à fait contradictoire, puisque je me demande toujours comment peut-on dire oui à l'art tout en disant non aux hommes. Voilà une question à laquelle, si vous avez des idées, envoyez-moi un message électronique à ma propre adresse que je vais vous donner tout de suite. Oui. Voilà, on devient plus... Bon, l'intimité, disons, se développe. Ouais. Bon, voilà. Je vous donne mon courrier à Chicago. .edu. Et eux, ils me font parvenir. Mais je ne sais pas lire. Je ne sais qu'écrire. Pardon. @U de université. Chicago, un seul mot. Chicago, vous connaissez? Oui, bon. .edu. Quand on dit Chicago, je ne sais pas pourquoi, quand je dis Chicago, tout le monde fait pam pam comme ça, mais c'est fou. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Alors, une fois que nous sommes bien installés dans cette sphère, dans ce royaume des rapports personnels, le vieux domaine de la nouvelle, exploité à fond par la littérature narrative de la fin du 19e siècle et même du 20e siècle, nous constatons ceci. Nous constatons qu'au cours du 20e siècle, pour des raisons qui me restent mystérieuses, l'influence du social, pour ne même pas parler de l'influence et de l'impact de la politique, diminue dans la littérature. Les romans parlent de moins en moins de politique et de monde social au XXe siècle. C'est comme une sorte... Le roman social continue d'exister, il y en a même de très très bons, il y a de très bons, mais ils ne sont pas considérés comme définitoires, comme au XIXe siècle. Quand on dit XIXe siècle, on dit Balzac, Dickens, etc. Quand on dit XXe siècle, on dit Proust, Joyce, vous voyez que l'accent tombe chez Proust et chez Joyce sur quelque chose d'autre. Et il est étrange que de nos jours, si on va dans une librairie et on regarde les romans, la plupart des romans parlent de l'auteur. Voilà ce qui m'est arrivé dans moi. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est sur le ton. Ah, ce qui m'est arrivé à moi. Si on veut avoir des notions sur la société, il faut aller regarder, il faut aller lire les romans policiers. Il faut aller lire dans les romans policiers, il y a véritablement une observation sociale, parfois une analyse. Moi, j'aime un auteur, je ne sais pas s'il est vraiment tellement bon, mais il arrive que j'aime Ian Rankin. Vous connaissez Ian Rankin qui écrit sur des histoires policières qui se passent à Édimbourg. On apprend pas mal de choses du point de vue sociologique sur le Royaume-Uni à la fin du XXe siècle. Et aussi on se rend compte que la place de l'analyse et j'espère bien du travail sur soi, mais aussi puisque vous avez parlé de cet auteur, celle du narcissisme deviennent considérables dans la littérature narrative dite de qualité. Mais j'ajoute à ceci qu'il n'est peut-être pas impossible et tout à fait impossible de soutenir que l'essor d'une manière d'écrire dite moderniste, parce que ici je ne parle pas des premiers modernistes, ceux du début du XXe siècle, surtout de la soi-disant deuxième avant-garde, celle des années 1950-1970, celle qui n'était plus du tout marginale, aventureuse, expérimentale, mais qui a très très vite obtenu un beau statut institutionnel. Le titre d'un livre du regretté Rainer Roschwitz était plein d'humour, ça s'appelait « Subversion ». Et subvention. Okay. Donc, je pense ici au nouveau roman et à ce qui s'est passé par la suite. Donc, que cette littérature qui insiste à peu près, disons, obsessionnellement sur le soi, qui propose des jeux formels difficiles à suivre et qui ne fait pas suffisamment attention à l'intelligibilité, que cette manière d'écrire soit due à ce qu'on pourrait appeler une contagion narcissique. Il y a une attention à soi rendue possible par l'intérêt croissant pour le domaine personnel, ce qui conduit, si j'ose dire, à une émancipation croissante de l'individualité idiosyncrasique de l'auteur. Et c'est peut-être un effet pervers de l'esthétisme. Ayant tourné le dos au monde, l'artiste d'un coup s'imagine qu'il peut se contenter de l'art. Mais c'est une C'est prendre des risques. Et je dois dire que du point de vue historique, et surtout ici en France, cette attitude a été encouragée par une lecture, par la lecture du roman américain. Mais je ne crois pas que c'est c'est nécessairement une bonne lecture, puisque c'est vrai que lorsque nous lisons Faulkner, on a l'impression qu'il y a une insistance obsessionnelle sur le soi, il y a souvent des jeux formels difficiles à suivre, parfois on croit qu'il y a une attention minime accordée à l'intelligibilité, mais si on lit attentivement le roman américain, moderniste, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il prend appui, c'est vrai, il prend appui sur le vécu strictement individuel, dans sa bizarrerie la plus étrange, mais qu'au fond, c'est toujours à travers comme une sorte de d'allusion comprise immédiatement par ceux qui font partie de ce milieu, pour évoquer comme à travers une vitre translucide la présence quand même massive du monde social. Antonia Bayat, que vous avez eu la chance de voir la semaine dernière, vient de m'envoyer sa préface au roman Beloved de Toni Morrison. Je ne sais pas comment on a traduit Beloved de Toni Morrison. C'est cette belle histoire d'esclavage au XIXe siècle où une femme tue sa fille et éprouve beaucoup de satisfaction à la tuer parce qu'elle ne veut pas que sa fille soit esclave. C'est un roman très très, très impressionnant. Qui est écrit dans un style absolument lyrique, c'est tout à fait lyrique, c'est tout à fait, parfois c'est très obscur, mais en même temps, il parle à travers cette vitre du lyrisme et de l'attention à l'individu dans sa forme la plus idiosyncrasique, il fait tout le temps allusion à une réalité sociale et légale. Effrayante qui est celle de l'esclavage. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de finir ce parcours assez rapide par deux œuvres, l'une écrite au début du XXe siècle, l'autre au milieu du XXe siècle, mais qui sont toutes les deux d'une extraordinaire transparence. Et peut-être vous allez sourire, ou au moins il y aura quelqu'un qui sourira lorsque je dis transparence en parlant de James, puisque James est un auteur extrêmement difficile pour certains d'entre nous, y compris moi. Mais je ne sais pas, je vous ai déjà peut-être dit au moment où j'ai un tout petit peu parlé de James, que je n'ai jamais, pendant très 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 longtemps, je n'ai jamais réussi à lire cet auteur. Il me semblait l'auteur le plus pédant et insupportable. Vous êtes d'accord? Oui. Difficile. Oui, je suis d'accord avec vous. Jusqu'au jour où j'étais d'accord, j'étais exactement du même avis, jusqu'au jour où ma femme, qui est anglophone de naissance, parce qu'elle est américaine, elle m'a dit ce qui aime beaucoup James. Et j'étais surpris parce qu'elle n'aime pas en général Joyce et ses auteurs alambiqués. Elle m'a dit, lis cela à haute voix, parce que James dictait ses romans. Et si on a la patience de lire chaque mot, ça devient beaucoup plus intéressant. Et surtout si vous avez la patience d'écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez trouver que La bête dans la jungle est l'œuvre la plus transparente qui existe. Bon, c'est un défi. Vous avez la permission de siffler un peu plus tard, je vais vous dire quand. Mais pour Marae, si vous avez lu Marae, je crois que vous l'avez trouvé assez transparent et assez direct comme, comme si je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a eu de vraies difficultés à saisir ce qui se passe dans Braise. Mais ne me dites pas que personne n'a lu Braise. Okay. Dans le premier cas, l'écriture de Henry James est destinée à souligner le labyrinthe et l'aveuglement du point de vue personnel. Si c'est difficile, c'est difficile pour une raison très très précise. Parce que James prend la décision de suivre de près le point de vue de ce personnage, John Marcher, qui ne voit absolument rien, et cet aveuglement qui est le sujet du roman. Et dans l'autre cas, chez Marais, l'écriture souligne la puissance d'une confrontation entre deux hommes qui ont été profondément liés par l'amitié et qui ont été séparés par l'amour. Dans les deux cas, nous avons affaire à deux destins, visiblement frappés par le malheur. Et dans les deux cas, le malheur est un malheur intime. Il vient de l'intérieur de l'homme et non pas des dieux ni du monde social. Et dans les deux cas, il y a une conscience aiguë de la différence entre le jeu et sa vie, une différence qui est saisie dans la prémonition au début de la vie chez James dans La Bête dans la jungle, qui est saisie dans la récapitulation à la fin de la vie dans Braise de Marais. Et ces deux vies, la vie de John Marcher et celle du général hongrois dans Braise, ont été détruites par la difficulté d'établir des rapports avec le prochain. Dans le premier cas, c'est la difficulté de reconnaître le don et d'être capable de donner. C'est l'échec de l'amour, c'est l'incapacité d'aimer. Dans le deuxième cas, c'est la difficulté d'être à la hauteur de l'amitié. Dans les deux cas, la tragédie est un échec de la confiance, de la foi faite aux autres. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas du tout fait exprès, mais je me suis dit qu'avec le récit de Stifter, nous obtenons une perspective complète de l'humanité, non pas une perspective complète de l'humanité, non, mais une perspective complète de l'humanité des trois grandes vertus théologales, l'espérance, l'amour et la foi. Ces vertus ont été mises en rapport par la théologie, ont été mises en rapport avec la divinité. Mais enfin, ici, ce n'est pas du tout un cours de théologie, mais un cours de littérature. Et ce qui est très beau, c'est que ces trois vertus, je ne sais pas si elles, je suis sûr qu'elles ont une importance théologale immense, mais elles ont une très grande importance dans les rapports entre les êtres humains. L'espérance, l'amour et la confiance forment le fondement de la vie en commun. Voilà donc un petit peu les grandes lignes de l'argumentation. Et je vais maintenant essayer de passer avec vous patiemment à travers la baie dans la jungle de Henry James. Donc, je ne suis pas ma vie. Et maintenant, je décide d'ignorer cette vérité. J'ignore cette vérité et je mène donc une vie dont je ne réussis pas à me détacher du tout pour en mesurer soit les dangers, soit les enjeux moraux, soit tout ce que vous voulez. Hein. Je vis d'un moment à l'autre et je deviens donc un picaro. Je deviens un picaro, un Gil Blas de Santillane, comme on l'a vu dans le roman de le sage imité d'un roman espagnol, je deviens peut-être comme Bardamu, le personnage de Céline. Je ne suis rien d'autre que ma vie, prend donc la forme dans le roman picaresque, je ne suis rien d'autre que ma survie du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est une attitude extrême. Mais il est possible aussi d'avoir l'attitude extrême opposée, à savoir, je ne suis pas ma vie et j'en suis trop conscient. Je ne fais que me tourmenter du matin jusqu'au soir en me disant, je ne suis pas ma vie et j'attends quelque chose qui ne vient pas de moi et qui doit se passer. Je suis comme un personnage grec de l'Iliade qui sait au début que les dieux vont se précipiter sur lui. Et ils n'attendent que ceci. Je suis comme un personnage de Chalamov qui n'attend que l'heure de son arrestation et d'être envoyé au camp et qui ne fait plus rien. Et si j'en suis trop conscient, si je crains trop que ma vie m'échappe entièrement, si je me consacre à l'attente paradoxale de l'inattendu, à l'attente des coups du sort, du malheur, je m'interdis de vivre. Je m'interdis de vivre. Je suis paralysé. Et la nouvelle de Harry James décrit précisément cet excès-là. L'accent qui, dans « je ne suis pas ma vie » tombe sur le « je », le paralyse, le sépare de sa vie, l'empêche de vivre. Vous verrez, une fois qu'on a saisi cet enjeu, et si surtout on revient, on relit Harry James. Harry James est un auteur qui est fait pour être relu. Hein. L'écriture devient d'une remarquable clarté. Parce qu'elle décrit un homme obsédé par l'irruption possible du destin dans sa vie. Et c'est le sens de la métaphore de cette bête sauvage qui, à un moment donné, devrait s'élancer, sauter, foncer sur lui. C'est comme les dieux grecs qui... C'est comme Zeus, dans l'exemple, si vous vous en souvenez, dans l'exemple où Zeus permet à Athéna de faire ce qu'elle veut avec les Troyens. Hein, un homme qui éprouve, sans s'en rendre bien compte, le besoin de ne pas être seul, mais lui, il ne sait pas s'élancer lui-même, faire le saut, sortir, foncer lui-même sur sa propre vie. Il ne sait pas, surtout, reconnaître l'amour. Il ne sait pas reconnaître la Dieu. Il ne sait pas prendre des risques. Il ne sait pas découvrir la force et la grâce du don, de se donner. Une fois que cette thématique est énoncée, j'espère, enfin, voilà, je fais le signe de la croix avec ma langue dans ma bouche, comme le font ceux qui veulent se défendre des vampires dans certains pays de l'Europe orientale, l'évidence devient écrasante. Ce qui, j'avoue, rend d'autant plus énigmatiques les interprétations psychologiques ou psychanalytiques de la bête dans la jungle, comme si il était trop insupportable de voir à quel point l'attention excessive accordée au soi est une chose dangereuse et ici même destructrice. Hein. Et peut-être, pour faire une parenthèse, je ne sais pas si vous avez lu La bête dans la jungle dans l'édition Garnier-Flammarion, où il y a aussi, où on publie aussi le motif dans le tapis, qui est une histoire cocasse, c'est une histoire très drôle, où Harry James se moque précisément des efforts trop alambiqués d'interprétation, des critiques littéraires qui essaient de trouver des vérités trop énigmatiques dans les œuvres littéraires. La vérité qu'on essaie de trouver dans la baie, dans la jungle, n'est pas trop, elle est évidente, elle n'est pas énigmatique. C'est un drame en cinq actes suivi d'un épilogue, et voilà comment je vous propose de la lire. Dans la première partie, nous avons une annonce des thèmes. C'est la présentation, comme toujours dans la tragédie. On nous présente les deux personnages et l'événement qui les relie. Le pressentiment de John Marcher et la confidence qu'il en a fait jadis à May Bartram. Ce pressentiment que le destin le hante et qu'à un moment donné, une bête va sortir de la jungle et foncer sur lui. Et notez tout de suite que Henry James procède vraiment comme un réaliste. C'est-à-dire, il prend soin de caractériser ses personnages, mais il faut faire très attention. Il faut lire à haute voix, comme dit ma femme. Il faut faire très attention. On voit tout de suite à quel point ce John Marcher ne fait pas attention aux autres. Et il est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Il ne fait pas attention. Vous vous souvenez, il dit, oui, il dit, je me souviens. Nous nous sommes déjà rencontrés. Il dit, alors, je m'en souviens, je vous ai rencontré il y a des années et des années à Rome, il dit. Je m'en souviens parfaitement. Mais vous voyez tout de suite après que ça n'avait pas été à Rome, ça avait été à Naples. Et ce n'avait pas été 7 ans plus tôt, mais près de 10 ans. Et elle n'était pas avec son oncle et sa tante, comme croyait John Marcher, mais avec sa mère et son frère. De plus, lui-même n'était pas avec les Pemble, mais avec les Boyer. Et il arrivait de Rome en leur compagnie, point sur lequel elle insista, en le troublant un peu, parce qu'il n'est pas trop sensible, en tout cas un peu, elle donna une preuve. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui-même, plongé en lui-même, fait un peu attention aux autres, mais pas au point de se rappeler d'un événement qui, dans sa vie, aurait dû avoir une certaine importance, parce que, certainement, il était lui-même attiré d'une certaine manière par cette May Bartram, puisqu'elle est la seule personne à laquelle il n'est jamais confié son grand secret, le grand secret de sa vie. Et il a un peu oublié les détails. Et voilà, à la page, tout de suite après, à la page 133, on voit un petit peu la personnalité de May Bartram aussi, qui est une dame assez sûre d'elle-même, et vous verrez, elle est assez fière. On a traduit pride par orgueil, comme dans Pride and Prejudice, orgueil et préjugé. Pride ici devrait être traduit par fierté, non pas par orgueil. L'orgueil est un défaut. La fierté est une qualité, et être proud, être fier, est une qualité. Donc c'est une personne fière. Il dit, ce fut alors, à l'instant crucial, reconnut-il par la suite, on sait quelle suite tragique, qu'à défaut de tout le reste, elle décida de prendre les choses en main. Donc c'est elle qui est la force qui conduit ce couple, ou en tout cas qui essaie de diriger ce couple, parce que on peut lire ici non seulement la fierté de May Bartram, mais aussi une certaine passivité, un certain égoïsme de Marcher. Il a oublié ces détails-là parce que, évidemment, il ne pense qu'à lui-même, séparé de sa vie. Alors, je vous lis maintenant le passage où Henry James définit véritablement l'attente de John Marcher. Ce qui m'arrive d'important ne peut venir que entièrement du dehors. Donc la chose ne s'est pas encore produite. Mais vous savez, il continue, ce n'est pas une chose que je dois faire, que je dois accomplir dans le monde, pour qu'on me remarque ou qu'on m'admire. Je ne suis pas aussi crétin que cela. Il aurait mieux valu sans doute que je le sois. Et elle demande, c'est une chose que vous aurez seulement à subir? Eh bien, disons que j'aurai seulement à l'attendre pour la rencontrer, l'affronter, la voir surgir dans ma vie. Elle détruira peut-être toute conscience en moi. C'est clairement la mort de Hector, ici, c'est la mort de Hector. Elle m'anéantira peut-être. Mais de notre côté, elle changera tout, elle frappera les racines de mon univers et elle me laissera en mesurer les effets, quelle qu'en soit la forme. Oui, il croit attendre un épisode de l'Iliade, parce que, comme il le dit très bien, ce n'est pas une chose que je dois faire moi. Et vous remarquez que les choses qu'il doit faire pour lui n'appartiennent qu'au monde social. Une chose que je dois faire, que je dois accomplir dans le monde pour qu'on me remarque ou qu'on m'admire. Il ne se pose même pas la question. Il n'envisage même pas la possibilité qu'il y a des choses qu'on puisse faire et qui sont mille fois plus importantes que celles pour lesquelles on nous admire et qui consistent à établir des rapports personnels avec les gens autour de nous. Il est aveugle et la première partie décrit précisément annonce cet aveuglement. Et dans la deuxième partie, May Barton commence peu à peu à se rendre compte de ceci. C'est évident qu'elle l'aime, elle lui donne une chance, comme on dit parfois. On parle à la page 145 de sa fierté. L'œil expert de Marcher avait aussitôt reconnu en elle une personne à charge, munie d'une fierté qui devait être douloureuse, quoiqu'elle ne fût pas agressive. Et lui aussi, il éprouve une sympathie pour elle. Il éprouva un plaisir qu'il n'avait pas connu depuis longtemps en apprenant que, etc., en se rendant compte qu'elle était fière. Il l'admire. Et il essaie, il croit ne pas être égoïste. Non seulement il croit ne pas être égoïste, mais comme il est un homme bien élevé, il fait des efforts pour ne pas être égoïste. Il s'était estimé, tant que personne n'était au courant, l'homme le plus détaché du monde. Il n'avait embarrassé personne de la bizarrerie d'avoir à connaître un être hanté. Il se rendait compte qu'il était un peu bizarre, il ne voulait pas ennuyer ses amis. Même s'il en avait parfois été tenté devant des gens qui disaient être eux-mêmes « unsettled ». Je traduirais par « perturbé » plutôt que « déstabilisé », qui se disaient eux-mêmes un peu perturbés, un peu mal à l'aise dans la vie. S'ils étaient aussi perturbés, aussi mal à l'aise dans la vie que lui qui n'avait jamais été stable ou calme une seule heure de sa vie, alors il comprendrait ce que son cas signifiait. Mais ce n'était tout de même pas à lui de le leur faire comprendre, il les écoutait très courtoisement. C'était pourquoi il pouvait se considérer, dans un monde rapace, comme convenablement et même peut-être un peu sublimement dénué d'égoïsme. Ouais, il se dit, oh, je suis généreux au fond, je suis même un tout petit peu de manière sublime. Donc, il a, dans cette petite phrase, même peut-être un peu sublimement, comment c'est en... oui, en anglais, as in fact, perhaps even a little sublimely, a little sublime. Toute sa complaisance envers lui-même. Et quand il dit, il est tout à fait dénué d'égoïsme, unselfish en anglais, vous voyez que c'est son jugement sur lui-même qui est faux. Et il est faux parce que il se dit, je ne suis pas égoïste, je vais protéger mes bâtons, je ne vais pas trop la perturber. Et de toute façon, quelqu'un comme moi, qui vit avec cette crainte, avec cette obsession, n'est pas quelqu'un à devoir se permettre de faire la cour à une femme, et d'autant moins à espérer l'épouser, parce que, comme il dit, bref, la conviction, la crainte, l'obsession de Marcher ne constituait pas une condition dont il put proposer le partage à une femme. Et la conséquence de cela était justement ce qu'il y avait de particulier, de bizarre en lui. Quelque chose le guettait, ainsi de suite. Bon, puisque ici on se propose de vous donner la clé tout de suite, tout ceci n'est que son incapacité d'aimer, son incapacité de voir l'autre qui nous est raconté à travers lui, à travers le point de vue de John March, est très, 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 très lentement. Hein. Ce qui est aussi un passage qui n'est pas... C'est une bonne traduction, mais avec la méchanceté habituelle des pédants et des profs, je souligne certaines choses que j'aurais traduites différemment. Bon, mais c'est une bonne traduction. Voilà comment raconter de son point de vue l'intérêt que May lui porte. Elle lui porte un intérêt véritable, mais lui, il le voit et il est aveugle. Elle était dans le secret de la diversité des aspects que prenait sa vie, quand il effectuait son travail de petit employé du gouvernement, ou quand il s'occupait de son modeste patrimoine, de sa bibliothèque, de son jardin à la campagne, des personnes à Londres dont il acceptait et rendait les invitations. Elle était dans le secret aussi du détachement qui y présidait et qui faisait de tous ses comportements, tout ce qui, du moins, pouvait être appelé comportement, parce qu'il n'avait pas vraiment du comportement. Tout ce qui pouvait être appelé comportement, un acte soutenu de dissimulation. Elle comprenait donc que pour lui, tout ce qui était comportement était en réalité un acte soutenu de dissimulation. C'était comme s'il portait un masque de simagrée sociale, un masque, par les trous duquel perçait un regard dont l'expression ne s'accordait nullement avec le reste des traits. Un peu effrayant, hein? Cela, se dit le monde stupide, même après des années, ne l'avait jamais soupçonné, plus qu'à moitié, parce qu'il fait des raisons, peut-être qu'ils l'ont quand même soupçonné. Seul May Bartram l'avait entièrement compris. Et avec un art ineffable, se dit Marcher, il avait immédiatement ou peut-être de manière alternative, et c'est très important de dire ça, de manière alternative, accompli l'exploit de le regarder droit dans les yeux. Donc, je veux dire de manière alternative, parce qu'il la voit, cette femme, le regarder droit dans les yeux sans tenir compte du masque, et aussitôt se placer presque derrière lui, en accordant, en mêlant sa propre vision à elle avec celle qu'il avait, lui, à travers les ouvertures. Donc, ce n'est pas si bien rendu dans la vision. Donc, il la voit de manière double, comme si elle était en face de lui en train de le regarder, et alternativement, derrière lui, sur son épaule, elle le regarde avec lui. Donc, c'est exactement... Je ne connais pas de description plus exact, je dirais, de l'expression plus exacte du sentiment que nous avons à propos d'un être que nous aimons et qui nous aime. C'est cela, aimer. C'est regarder quelqu'un en face et savoir que cette personne vous regarde et en même temps regarde le monde avec vous et non pas contre vous ou d'une autre manière. Et lui, il voit tout ceci, mais d'une manière absolument aveugle. C'est toute la douleur de ce qu'il va découvrir plus tard. Et c'est justement la période où elle, May Bartram, commence à comprendre l'incapacité d'aimer de John, tout en espérant toujours. Alors il dit, ah oui, bien entendu, répondit Miss Bartram, le sort se manifeste tout le temps, et c'est tout le temps manifesté sous sa propre forme et de sa propre manière. Seulement, vous savez, dans votre cas, elle lui dit, dans votre cas, la forme et la manière de ce sceau de la bête, la forme et la manière auraient dû être, eh bien, quelque chose de très exceptionnel et peut-on dire de très singulièrement personnel. Et John sent qu'elle lui dit quelque chose de particulièrement important. Quelque chose en cela le poussa à la regarder d'un air soupçonneux. Vous dites, aurait dû être, comme si au fond de vous, vous vous étiez mise à douter. C'est exactement ce qui se passe. Oh, protesta-t-elle vaguement. Comme si vous pensiez, poursuivit-il, que rien maintenant ne se produira. Elle secoua lentement la tête, mais d'une façon assez énigmatique. C'est loin de ce que je pense, elle dit le contraire. Il continua de la regarder. Mais alors, qu'avez-vous? Parce que lui aussi, il perçoit tout ceci. Eh bien, ce que j'ai, dit-elle après une nouvelle pause, c'est simplement d'être persuadée comme jamais que ma curiosité, comme vous dites, ne sera que trop bien satisfaite. Donc je ne verrai que trop le malheur qui est en train d'arriver. Et même elle dit, vous n'avez pas peur, elle lui dit, mais ce n'est pas, dit-elle, la fin de notre guet. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du vôtre, parce qu'elle a vu. Et alors, pourquoi pas vous? Demanda-t-il. Il avait eu durant toute la journée, et il avait encore le sentiment qu'elle cachait quelque chose. Et c'était la première fois qu'il l'avait. Cela faisait date, en quelque sorte. Cela faisait date. Il faut se souvenir de cette petite phrase, parce qu'à la fin, dans le cimetière, il va dire, il se souvint de la date. C'est cette date. Cela faisait date. Et c'était d'autant plus sensible qu'elle ne lui répondit pas tout de suite, ce qui l'incita à poursuivre. Vous savez quelque chose que j'ignore. Et il eut une voix bien tremblante pour un homme courageux. Vous savez ce qui doit se produire. Il s'en trouva convaincu. Le visage qu'elle lui montra, en gardant le silence, était une sorte d'aveu. Vous le savez et vous avez peur de me le dire. C'est si terrible que vous avez peur que je le découvre. Tout cela était peut-être vrai, car elle le regarda avec surprise. Elle le regardait avec surprise parce que lui, il voit cela et il ne voit pas le reste. Comme s'il avait franchi une ligne mystique qu'elle eut secrètement tracée autour d'elle. Mais elle aurait pu, après tout, ne pas s'inquiéter. Et le résultat réel fut que lui, en tout cas, n'en eut pas besoin. Elle dit, vous ne le découvrirez jamais. Tout cela, néanmoins, fit, comme je l'ai dit, date. Bon. Dans la troisième conflit, il y a l'approfondissement, la troisième partie, je m'excuse, il y a l'approfondissement, l'aggravation de ce conflit. Il y a cette maladie de May Bartram, qui, évidemment, est une maladie employé ici, même de manière métaphorique ou symbolique par Henry James, parce que c'est la maladie de celle qui n'est pas aimée et qui la guérison aurait été possible, on espère. Marshall s'était de nouveau senti mis en garde contre son propre égoïsme. Il n'avait pas perdu de vue, et cela fort convenablement, en somme, pensait-il. L'importance de ne pas être égoïste. Et il n'avait en vérité jamais penché de ce côté-là sans essayer de redresser assez promptement les plateaux de la balance. Il réparait souvent sa faute, la saison le permettant, en invitant son ami à l'accompagner à l'opéra. Et il n'était pas rare qu'il l'y amena une douzaine de fois dans le mois, comme pour lui montrer qu'il ne désirait pas ne lui servir qu'une seule sorte d'aliment musical. Il peut l'amener à voir du Rossini, du Mozart et du Puccini aussi, oui, voilà, ou même du Massenet. Et il récapitulait même avec elle des passages de l'opéra qu'il venait d'entendre sur le piano, toujours à leur disposition, donc ils savaient tous deux. Ils n'étaient pas égoïstes, ils faisaient de la musique avec elle. Quelle ironie, hein. Il ne soupçonne rien et dans la quatrième partie, celle de la crise, il devient clair qu'il échoue. Et à le grand dialogue du malentendu dans cette quatrième partie, je ne sais pas si on a jamais composé un opéra La Bête dans la jungle, est-ce que quelqu'un sait parce que le tour de l'écrou, il y a un opéra de Benjamin Britten qui est très très beau. Mais ici, c'est un duo, c'est vraiment un duo de pièces de théâtre, oui. Oui, il y a une dramatisation, c'est ça, celle de Marguerite Duras, oui, absolument. Oui. C'est tout à fait théâtral. Lui, il répète, je ne lis pas toute la scène parce que c'est trop émouvant, mais je vous lis la partie où il répète « Vous savez quelque chose que j'ignore. Vous m'avez déjà prouvé cela. » Il vit qu'elle était vivement frappée par ces paroles, auxquelles elle répliqua avec fermeté. « Écoutez, je ne vous ai rien montré, mon cher. J'attendais que cela vienne de vous. » Il secoua la tête. « Vous ne pouvez pas le cacher. » « Vous ne pouvez pas le cacher, » il dit. Alors, elle ne répond que « Oh, oh !» murmura May Bartram à propos de ce qu'elle ne pouvait pas cacher. C'était presque un gémissement étouffé à la page 187, pour ceux qui ont le mal. Et puis, comme elle gardait le silence, ce qui me convainc, c'est que, il continue, John, je vois dans votre visage, et je sens ici, dans ce cadre et dans ces atmosphères, que vous êtes ailleurs. Vous avez terminé. Vous avez eu votre expérience et vous m'abandonnez à mon sort. Eh bien, elle écoutait, immobile et blanche sur sa chaise. Immobile et blanche parce qu'il voit tellement sans rien voir, comme si elle avait en fait une décision à prendre. Et toute son attitude était une sorte d'aveu, mais avec un petit raidissement intérieur et une résistance partielle. Ce serait en effet la pire des choses. Se résolut-elle enfin à répondre? Je pense, veux-je dire, la chose que je n'ai jamais dite. Et il resta un instant muet. Plus monstrueuse que toutes les monstruosités plus monstrueuse, répond-elle. Et alors lui, il demande, parce que son tour arrive, hein, il demande, alors dites-moi si je vais sciemment souffrir. Elle secoua vivement la tête. Jamais. Cela confirma l'autorité qu'il lui imputait et produisit sur lui un effet extraordinaire. Ma foi, qu'espérer de mieux? Qu'y a-t-il mieux que de ne pas souffrir? Comment peut-on appeler cela le pire? Et elle dit, vous trouverez qu'il n'y a rien de mieux? Demanda-t-elle. Vous trouvez qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas souffrir? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je vais passer directement à la Kodava dans la fin, à la cinquième partie. C'est la catastrophe où elle lui déclare que ce qui devait arriver est arrivé. Elle espère jusqu'à la dernière minute que quelque chose pourrait changer, mais rien ne change. Ce qui devait arriver est arrivé. Et elle disparaît. Et comme vous savez, devant sa tombe, il reste toujours, il est lié avec elle, mais il ne comprend pas pourquoi. Il est lié à elle plutôt, il ne comprend pas pourquoi. Il va devant la tombe, il s'agenouille devant la tombe, mais ce fut en vain qu'il s'agenouilla. La tombe conserva, ou elle, mais conserva ce qu'elle cachait. Et si la tombe lui parut prendre un visage, ce fut parce que le nom et le prénom de son ami le regardèrent comme deux yeux qui ne le reconnaissaient pas. Il leur rendit un dernier long regard, mais nulle pâle lueur n'en jaillit. Et alors, ça c'est, disons, je dirais, c'est comme la fin de la tragédie, mais il y a un épilogue. Il y a un épilogue, parce que l'auteur a quand même pitié de cet homme, qui un jour, revenant à la tombe, voit quelqu'un d'autre à la tombe d'à côté. Marge sentit aussitôt que c'était un être profondément atteint, sentiment d'autant plus vif que rien d'autre dans l'aspect de cet homme ne le frappait, ni sa tenue, ni son âge, ni son caractère. Il n'y avait de vivace en lui, que la profonde détresse de l'expression qu'il montrait. Il la montrait. Et c'était cela l'important. Alors, à la suite de son vague regard, et en conséquence de cette impression, il se produisit la chose la plus extraordinaire qui fût jamais arrivée. L'inconnu s'en alla, mais l'éclat brut de son chagrin demeura, laissant notre ami se demander avec pitié quelle épreuve, quelle douleur, quelle inguérissable blessure il exprimait. Qu'avait donc eu cet homme qu'il pût saigner, mais continuer de vivre en l'ayant perdu? Quelque chose, et l'idée lui serra le cœur, que lui, John Marcher, n'avait pas eu. Et la preuve en était la fin aride de John Marcher. Aucune passion ne l'avait jamais atteint, car c'était cela que signifiait la passion. Le spectacle qu'il venait d'avoir sous les yeux inscrivit en lettres de feu quelque chose qu'il avait complètement et follement manqué, et ce qu'il avait manqué formant une traînée de flammes qui provoquant en lui des pulsations d'angoisse. Il avait vu en dehors de sa vie et il n'avait pas appris de l'intérieur la façon dont une femme était pleurée quand elle avait aimé, était aimée pour elle-même. Mais maintenant que l'illumination avait commencé, elle brillait jusqu'au zénith. Et ce que Marcher pouvait-on scruter, ce fut le vide de sa vie. Il le scruta en soupirant douloureusement. Il se retourna consterné, et se retournant, il vit gravé plus nettement jamais la page ouverte de son histoire. Le nom inscrit sur la pierre le saisit, comme l'avait fait le passage de son voisin. Et ce que ce nom lui disait en plein visage, c'était que ce qu'il avait manqué, c'était elle. Telle était l'affreuse pensée, la réponse à tout le passé, la vision dont la terrible clarté le rendit aussi froid que la pierre à laquelle il s'appuyait. Tout s'accordait, s'éclairait, s'expliquait d'une manière foudroyante, la laissant avant tout stupéfait de l'aveuglement qu'il avait cultivé. Il avait rencontré de bon le sort auquel il s'était voué. Il avait bu la coupe jusqu'à la lie. Il avait été l'homme de son temps, l'homme auquel rien du tout ne devait arriver, l'homme qui ne pouvait pas aimer. Telle était sa marque singulière, telle était son épreuve. L'issue pour lui aurait été de l'aimer. Alors il aurait vécu, elle aurait vécu. Et qui pouvait dire maintenant avec quelle passion, puisqu'elle l'avait aimé pour lui-même, tandis qu'il n'avait jamais pensé à elle. Ah, quel horrible tourment dans cette idée que dans la glace de son égoïsme et à la lueur de ce que, à quoi elle pouvait lui servir. Et c'est cela, la bête qui saute sur lui. Je vais vous lire ici, pour lui donner la parole à elle-même, lui donner la parole à May Bartram aussi, qui n'apparaît presque pas dans ce récit, puisque tout est vu à travers John. J'ai trouvé l'autre jour une très très belle citation dans le livre Homo Viator de Gabriel, du philosophe français Gabriel Marcel, dans un article qui s'appelle « Esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance ». Voilà ce qu'il dit. Et cela décrit de manière uncanny, je dirais, d'une manière vraiment étrange, ce que May Bartram pensait et la manière dont elle vivait. Aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'indéfinissable, d'imprévisible. C'est en même temps lui donner, en quelque façon, le moyen de répondre à cette attente. Et la tragédie que John Mark Marcher comprend à la fin, c'est qu'il n'a jamais su répondre à cette attente. Et maintenant, avec les sauts mortels auxquels nous sommes tous habitués, sautons à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout de l'existence, au roman de Sándor Márai, ce très très grand écrivain hongrois, né en 1900, décédé en 1989 à San Diego, au sud de la Californie. Un roman qui prend à dessein pour objet un homme qui récapitule sa vie. Un homme entièrement coupé de son siècle. Un homme qui mesure l'effet des comportements des autres. C'est un homme qui fait preuve d'une étonnante pénétration et qui essaie de se mesurer lui-même. Il se comprend, mais pas tout à fait. Il fait preuve d'une certaine pudeur à l'égard de lui-même et nous allons voir ceci. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même lire certains passages très très émouvants de la fin de cette ouvrage. Et le monde qui a vu grandir le héros, ce très très bon monde de l'Empire austro-hongrois, qui a été tellement regretté par toutes les nations qui n'ont pas compris à quel point elles étaient libres de se développer dans cet empire, parce qu'elles étaient surtout libres de la malédiction qui est arrivée par la suite, celle du nationalisme, bien entendu. Donc c'était un empire un peu endormi, peut-être pour le goût de certaines personnes, mais en tout cas très très pacifique, et ce monde est complètement disparu, et le personnage à la fin vit dans une parfaite isolation, peut-être pour que là, l'écho des rapports personnels puisse se faire entendre, tout comme dans la tragédie classique française, donc je suis un admirateur inconditionnel de la tragédie classique et des règles de l'unité et de tout ceci, comme tu sais de le dire dans cet essai sur l'art de l'éloignement. Comme dans la tragédie classique, donc, le décor disparaît, les détails disparaissent pour que la force des passions puisse retentir. Donc nous nous trouvons dans un château qui est loin de tout. Hein. Et les personnages du drame sont ces trois personnages, le général, son ami de jeunesse Conrad et sa femme Christine sont maintenant séparés les uns des autres. Le général parce que, et son épouse parce qu'elle est morte il y a un certain temps, et l'ami parce qu'il est parti déjà avant la Première Guerre mondiale, il a quitté son pays. Il y a aussi l'imminence de la mort, Christine est déjà morte, et les deux autres personnages savent qu'ils ont déjà passé la plus grande partie de leur vie. Aussi, le pays dans lequel cette histoire se passe, la Hongrie, a été démantelée en 1918-19 par la paix de Versailles, et nous nous trouvons en 1942, c'est ce qui se passe en 1942, au cœur d'une, au milieu d'une guerre horrible, destructrice, monstrueuse, auquel le général fait allusion de temps à autre, et il sait très bien que ce qui va suivre après 1945, surtout dans cette partie-là du monde, est un cauchemar sans précédent dans l'histoire. Donc vous voyez l'imminence de la mort. Et pourtant, dès que j'ai noté ces choses-là, je me suis dit, pourtant, quelle vie et quelle énergie c'est tous ces personnages. Hein. C'est pour cela, peut-être, que le roman s'appelle « Braise ». Des braises qui sont... j'ai cherché dans le petit Robert là, le sens exact du mot « braise », matière encore incandescente, comme toujours le petit Robert est tellement précis, matière encore incandescente, mais qui ne jette plus de flamme. Elle ne jette plus de flamme, mais l'incandescence est là. Hein. Il n'y a plus la vie, mais il y a la force extraordinaire du souvenir. Et ici, ce qui a détruit ces vies, ça a été l'incapacité de ces personnages, l'incapacité des hommes plus en de bien tenir en main les liens qui les rattachent les uns aux autres. Les liens qui sont faits de promesses et de confiance. L'homme, on a déjà peut-être parlé de cela, disait Nietzsche, et l'animal qui peut faire des promesses. On peut ajouter ici à propos de Braise, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà lu, l'homme est l'animal qui sait faire confiance. Et il y a d'autres animaux qui font confiance. Et c'est pour ça que nous les aimons. C'est pour ça que nous aimons, certains d'entre nous aiment tellement les chiens. Parce que le chien est comme nous, un animal qui sait faire confiance. Et on parle ici donc de cet épanouissement intime, inexprimable, indéfinissable de deux êtres en proximité l'un de l'autre. Hein. Et dans ce roman, je le dis tout de suite, on arrivera dans un instant à l'intrigue, dans ce roman, ce qui est très frappant, c'est que à la suite d'une belle tradition qui remonte peut-être à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on a le contraste entre la civilisation, la vie ensemble, le monde conventionnel qui est celui du général, le monde du devoir, celui du militaire qui sait qu'il défend la paix de son pays, que chaque... Il y a cette scène superbe d'une nuit enneigée à Vienne. Vienne est une ville qui est toujours belle, mais sous la neige, elle est plus sublime que jamais. Et, Vienne sous la neige et ce militaire qui se dit, grâce à moi, l'empereur peut dormir. Tous dans cet empire, 50 millions d'hommes dorment. Ces gens dorment. Ils dorment paisiblement parce que nous sommes là, au fond, nous sommes là. Et d'autre part, au contraire, la musique, la culture, les sentiments secrets, l'inexprimable. Vous voyez, ce qui est le romanesque. Cette opposition existe depuis très longtemps. Elle a été bien exploitée. C'est un gisement riche. Un filon riche. Il y a encore des choses à dire là-dessus. Ce qui est très beau ici, c'est que à la fin, de manière inattendue, Chandor Marai se déclare en faveur du devoir. Et c'est la musique, c'est l'inexprimable, c'est l'ineffable qui sera condamné ici. Ceci a déjà été un peu esquissé par Tolstoï dans Anna Karénine, mais Tolstoï ne peut pas s'empêcher quand même de nous présenter un Karénine un peu plus médiocre que j'aurais aimé moi. J'aime beaucoup Karénine, le mari, quoique c'est un médiocre évidemment, pour le simple fait que lorsque Anna Karénina a un enfant adultérin, ni elle, ni Vronsky ne s'occupent pas du bébé. Le seul qui s'occupe du bébé, c'est Karénine. Ça suffit à me le faire aimer pour toujours. Bien. Ok. Bon, voilà. Donc, déjà, dans Anna Karénine, cette opposition est dépassée, mais Marais fait encore un pas de plus. Ici, c'est le mari trompé, l'homme du devoir qui est vu de l'intérieur, et c'est lui qui est l'homme du courage, de la défense du monde vivable. Et c'est l'artiste, c'est le musicien amoureux qui nous est présenté ici comme un lâche. C'est quelqu'un qui sera présenté comme un lâche. Hein. Et aussi, une chose qui est très intéressante, c'est très rare, ou c'est assez rare de voir un sentiment inavouable, l'envie sociale, l'envie de l'homme pauvre pour celui qui est riche, qui est favorisé. C'est un sentiment que j'ose trouver laid. C'est un sentiment laid, c'est un sentiment bas. Qui a été très 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 exploité par ceux qui se font les défenseurs du ressentiment, mais qui a toute la laideur du ressentiment, et ici il nous est présenté aussi précisément dans sa laideur. Et ce qui est terrible, c'est que ce musicien romanesque, romantique, a honte de ses parents. Marais ne dit jamais que le sacrifice des parents de Conrad est une chose honteuse. Au contraire, il respecte profondément le sacrifice de ce couple de gens pauvres qui font tout pour que leur fils réussisse. Ce qui le trouble, c'est la honte que Conrad a de ce sacrifice et le fait qu'il continue d'être envieux de celui dont les parents n'ont pas eu besoin de se sacrifier, quoique ils ont trouvé eux aussi, puisqu'à tous les niveaux de la société, les gens sont tout à fait habiles à trouver des moyens d'être malheureux. Hein. Bon, donc le sujet du roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, est celui-ci. Hein. C'est le personnage principal est un vieux général hongrois qui vit seul dans son château avec sa nourrice et quelques serviteurs en 1942. Il attend depuis très longtemps la visite de quelqu'un, d'un ancien ami qui avait précipitamment quitté le pays avant la Première Guerre mondiale. Et comme j'ai lu ce roman plusieurs fois, je vous raconte le sujet parce que, au fond, j'ai encore mieux aimé le roman à la relecture. Donc le fait que vous, ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, le fait que vous saurez d'avance ce qui se passe, ne dérange pas. Donc ne me dites pas, ne m'interrompez pas. Et on comprend petit à petit que les deux hommes qui se rencontrent effectivement, ils viennent de milieux très différents. La noblesse hongroise, proche du roi de Hongrie, en Hongrie, l'empereur d'Autriche était appelé le roi de Hongrie. D'autre part, une famille polonaise pauvre mais ambitieuse qui se sacrifie pour le bien de leur fils, et qu'ils étaient depuis l'adolescence qu'ils ont passé à Vienne à l'école militaire, liés par une de ces amitiés entre garçons, une amitié à toute épreuve. On comprend aussi que le noble hongrois a épousé cette jeune fille d'origine modeste, Christine, fille d'un musicien, fille qu'il a connue par l'entremise de cet ami Conrad. et que celui-ci a eu par la suite une liaison avec cette femme, avec l'épouse de son mari. Et non seulement il a eu une liaison avec Christine, qu'il aimait, évidemment, on se comprend tout ceci, par la bouche du général qui a médité à ce qui s'est passé et qui a tout saisi par la suite, mais aussi Conrad a eu la chance de pouvoir tuer son ami. Il aurait pu le tuer. Et s'il avait tué, il aurait pu atteindre le but de sa vie, puisque comme il était pauvre et comme Christine était pauvre, il fallait que le mari meure pour qu'elle hérite les biens de son mari et que pour eux, ensuite, ils vivent ensemble de cette richesse. Et c'était une situation dans laquelle le meurtre n'aurait pas pu lui être imputé, puisque c'était dans une partie de chasse. C'était pendant la chasse, donc là, on n'aurait pas pu l'accuser. Mais il hésite. Et il hésite, et Mara, il laisse planer comme une sorte de doute, puisque le général qui aime Conrad encore, il est toujours attaché à Conrad, l'accuse de lâcheté, parce qu'il veut voir le côté lâche de Conrad. Mais aussi, il y a le côté généreux de Conrad. Conrad est quelqu'un aussi qui aurait pu le faire, mais qui ne le fait pas. Il ne veut peut-être pas tuer. Il a peut-être peur de tuer un homme, mais il hésite peut-être de tuer son meilleur ami. Et il prend la fuite le lendemain. Il prend la fuite. Le général découvre tout en allant voir Conrad dans son appartement qu'il n'avait jamais visité et où il rencontre sa femme Christine, qui passe elle aussi là. Et il voit sur le visage de sa femme le fait qu'elle était parfaitement familière de l'endroit. Et tout devient absolument clair pour lui. Nous parlons ici d'un monde où les gens ne connaissent pas beaucoup de personnes, mais ils se connaissent très très bien les uns les autres. Donc il comprend absolument tout. Il dit, évidemment, Christine se dit tout de suite, Conrad est un lâche, il est parti, il est un lâche, mais aussi peut-être, il est parti parce qu'il a voulu laisser le général et Christine seuls, les laisser seuls, se retirer de cette liaison qu'il regrettait peut-être. Et je dis qu'il regrettait peut-être parce qu'il y a un détail qui m'a surpris que j'ai remarqué la deuxième fois où j'ai lu le roman et que j'ai compris seulement après la troisième lecture, à savoir, j'y arriverai tout de suite. Donc il quitte, il part, il disparaît. Le général comprend tout, il rentre chez lui au château. Il attend que sa femme vienne le voir pour... Il dit lui-même, pour que je la tue, ou au contraire, pour que je l'embrasse, je pleure avec elle, qu'on se pardonne. Mais elle ne vient pas. Elle ne vient pas le jour même. Donc, lui, il se retire dans le pavillon de chasse du château, à 2 heures de route du château, et il attend. Il ne lui fait pas signe, il attend pendant 8 ans. Et elle ne fait pas le premier pas. Ils sont tous les deux des personnages d'une fierté comme on n'en voit plus. Hein. Heureusement, je dirais. Moi, j'aurais téléphoné tout de suite, envoyé un email. Mais what? Are you crazy? I'm here. Let's have dinner together. On peut boire une bouteille de Bourgueil et on va parler de tout cela. Bon, mais disons, on était dans un autre monde où les gens étaient d'une fierté extraordinaire et pendant 8 ans, elle ne lui fait pas signe. Et elle, à la fin, elle meurt, mais la nourrice du général, qui est plus vieille que lui et qui est encore en vie, en forme, elle lui rapporte que le dernier mot qu'elle a prononcé, c'était le nom de son mari. C'était le nom du... Donc, elle pensait quand même à lui. Et c'est quelque chose que Conrad sentait peut-être. Parce que lorsque plus tard, le général lui raconte ceci, lui raconte, après ton départ, tu sais, après ton départ, elle a dit, t'es un lâche, et voilà ce qui s'est passé, on ne s'est plus vu jusqu'à sa mort, pendant 8 ans. Et Conrad est saisi d'étonnement, il est étonné, il est effrayé presque. Et on peut penser qu'il est effrayé parce que non seulement il ne s'est pas enfui simplement par lâcheté, mais aussi par une certaine générosité, parce qu'il voulait les laisser seuls et qu'il se rend compte à la fin que, pour le moins, cet aspect de sa fuite est un échec. Était un échec, vous voyez. L'amant revient, il ne peut pas résister, le vieux général sait que son ami reviendra, il revient, il apprend l'étrangeté de la situation, il semble avoir été certain que les époux s'étaient réconciliés, il était peut-être parti pour cela. On pourra dire quel gâchis, hein, mais quelle grandeur, hein. Et quel est donc le sens de ce dialogue, de ce long dialogue entre le général et Conrad, qui est la substance, mais forme la substance même du livre. Tout d'abord, le général parle bien souvent de vengeance. Il veut se venger. Vengeance, ça veut dire prendre le couteau, le planter dans le cœur. Non. Il n'y a aucune vengeance autre que... Il n'y a aucune vengeance. Donc je me suis demandé, quelle est la vengeance? Mais la seule vengeance, c'est celle que le général veut montrer à Conrad qu'il a tout compris. Il le domine parce qu'il a tout compris. Et qu'il a gardé sa fierté, cette fierté folle et bête qu'il regrette lui-même à la fin, le refus d'être le premier qui parle à sa femme qu'il aime encore, tout comme il aime encore Conrad. Il aime sa femme. Et pourquoi il l'aime? Comment on voit qu'il l'aime? Parce que la seule chose qu'il veut savoir, vraiment, est si elle était au courant de ce meurtre, de ce projet de meurtre. La question qu'il pose. Il y a là un passage véritablement émouvant. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. Pesant ses paroles, le général dit... Il faut que tu répondes à ma... Enfin, il arrive après 100 et quelques pages de dialogue, il arrive à la question, il dit, il faut que tu répondes à ma question. Christine, le jour de la chasse, savait-elle que tu voulais m'assassiner? Mais je n'ai pas bien lu, parce que Chandan Marai ajoute, il pose cette question avec calme, mais dans sa voix, on perçoit une angoisse réelle. Et écoutez, il passe à un autre chapitre. Conrad respire profondément et se passe la main sur le front. Il est évident qu'il s'apprête à répondre. Mais le général ne lui en laisse pas le temps. Un instant, dit-il vivement. Excuse-moi, je voulais simplement dire... Et il s'interrompt soudain, comme se rendant compte de la... Il ne le laisse pas parler. Il ne veut pas entendre la réponse. Il interrompt encore une fois. Et à la fin, Conrad dit, je ne veux pas répondre. Conrad refuse de répondre. Parce qu'il s'est bien rendu compte que le général ne veut pas entendre la réponse. Donc, dans cet affrontement, ce qui est extraordinairement émouvant, c'est de voir comment ils continuent de se protéger l'un l'autre et comment le général veut se protéger lui-même. Et où on voit, il y a un détail où on voit que le général a compris qu'il n'est pas sa vie. Il n'est pas sa vie. À la page 60. Ce qui s'est passé, tout ce que l'on nomme communément trahison se révèle sans grand intérêt lorsque, sur la fin de notre vie, nous récapitulons notre passé. Nous ne sommes pas notre passé. Il citera bientôt un passage, j'espère le trouver, oui, à la page 74, ici, il cite, il dit, nous pénétrons mieux le sens des choses, etc., quand nous avons bien compris, par exemple, qu'une coupe n'est qu'une coupe et que les pauvres humains, quoi qu'ils fassent, ne sont que des créatures éphémères, c'est que... C'est une citation du manuel d'Épictète. C'est une citation stoïcienne. Si vous êtes malheureux, dites-vous quand vous voyez une coupe qui se brise, bon, au fond, ce n'était qu'une coupe. Si un être cher disparaît, vous dites, au fond, c'était un être humain. Il faut se... Donc, à la fin de sa vie, le général comprend le stoïcisme, mais ce n'est pas sur le mode héroïque, mais sur le mode d'une sagesse qui pardonne tout, vous voyez. Et comme je disais tout à l'heure, Conrad veut répondre, mais le général ne le laisse pas parler. Il ne veut pas entendre la vérité, puisque j'ai écrit ici, mais j'ajoute, il ne veut pas entendre la vérité de la bouche de Conrad. Il veut la comprendre lui-même. Il ne veut pas l'entendre venant de l'autre. Et il la trouvera. Il la trouvera. C'est pas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui croient que la question ne reçoit pas de réponse dans le roman. Il y a certains critiques. Moi, je vais vous essayer de vous convaincre que le général trouve la réponse. Donc, vous savez que le général aime encore trop Conrad et Christine, comme je viens de le dire, et qu'il n'a pas lu ce fameux carnet de confession de Christine. Christine veut ne pas se cacher au général. Elle a un sort de journal intime où elle écrit tout ce qui lui passe par la tête, y compris certaines critiques de son mari, et que son mari a la liberté de lire quand il voudra, et il apprend qu'elle l'aime beaucoup, mais en même temps qu'elle voit assez bien ses défauts. Et le carnet contient cette vérité. Mais le général ne l'a jamais ouvert, il ne veut l'ouvrir qu'en présence de Conrad. Et là, il y a le journal. Voilà ce que Christine nous a légué, dit le général. Je n'ai pas enlevé le ruban cacheté. Oui, Christine avait cacheté le journal pour signifier quelque chose au général, pour lui signifier quelque chose. Quand je n'avais pas autorisation écrite pour le faire, Christine n'ayant pas donné d'instruction concernant son héritage, je ne pouvais pas savoir si ses confessions d'outre-tombe étaient destinées à moi ou à toi, dit-il en posant le carnet sur la petite table placée entre eux deux. Comme pétrifié, Conrad ne fait pas un geste pour le prendre. Ce journal contient la vérité, dit le général, c'est-à-dire la réponse exacte à ma question, car Christine ne mentait jamais. La tête appuyée sur la main, Conrad a les yeux fixés sur le carnet jaune, mais ne le prend toujours pas. Ce message de Christine, veux-tu que nous le lisions ensemble? Demande le général. Non, je ne le désire pas, répond Conrad. Ne le désires-tu pas ou ne l'oses-tu pas? Demande le général d'un air supérieur, comme un chef interrogeant son subalterne. De main qui ne tremble pas, parce qu'il a eu la réponse, il reprend le carnet et le tend de nouveau à Conrad. Il se défie du regard un long moment et Conrad finit par dire « Je ne répondrai pas à cette question », c'est-à-dire la question « si je ne désire pas ou si je n'ose pas ». Autrement dit, il n'ose pas dire qu'il n'ose pas lire le carnet. C'est bien ce que je pensais, réplique le général d'un ton satisfait. Et effectivement, ils se séparent et à la fin, le général se dirige vers sa chambre à coucher. Au bout du corridor, Nini, sa nourrice, l'attend. Es-tu plus tranquille maintenant? Lui demande-t-elle. Oui, répond-il. Ils avancent côte à côte à l'endroit où se trouvait autrefois le portrait de Christine qu'il a fait enlever lors de la grande crise. Le général s'arrête un instant. À présent, tu pourras remettre le portrait à sa place, dit-il simplement. Bien, acquiesce Nini. Et cela n'a plus d'importance, reprend le général. Tu as raison. Bonne nuit, Nini. Mais il fait déjà jour, dit la nourrice sur un ton taquin. Puis elle ajoute sur bonne nuit. Oui, parce que, évidemment, il a compris il a compris que Conrad était seul à vouloir le tuer. Et, ce qui signifie en quelque sorte aussi que Conrad a osé vouloir tuer son ami, mais ce qui renforce aussi la générosité de Conrad qui prend la fuite en voulant les laisser ensemble. Et c'est la seule manière dont on peut expliquer la tranquillité, la paix intérieure du général et la remise du portrait de Christine à sa place. Parce que, comme il dit à la page 86, dans ma vie, il dit, voilà, c'est peut-être le message de ce roman, hein, dans ma vie, j'ai vu la paix, j'ai vu la guerre, je t'ai vu lâche, et je me suis vu insensé et orgueilleux. J'ai vu des luttes et des compromissions imméprisables. Mais ce qui constituait la raison profonde de toutes mes actions a été le lien qui me rattachait à l'être qui m'a blessé. Et comme on sait que c'est quelqu'un de très profond, le général, cet être qui m'a blessé, il le comprendra par la suite, aussi celui qui, d'une certaine manière, a voulu me protéger. C'était les liens qui me rattachaient aux deux êtres qui m'ont offensé. Accepter inconditionnellement certains liens, n'est-ce pas notre destinée? Je voudrais connaître ton opinion à ce sujet, dit-il à voix basse. Tu la connais parfaitement, chuchote Conrad. Voilà, je vais finir là-dessus en vous demandant tout simplement, bon, je dois parler fort, hein, tout simplement, d'écouter la littérature comme on écoute les confidences d'un ami et d'un parent. C'est un thème que j'ai mentionné plusieurs fois. C'est la seule manière d'en trouver la substantifique moelle, c'est la seule manière de saisir la chaleur de sa vérité. Merci. Okay.